Chapitre 8. Après avoir garé sa voiture de service optimisée sur le toit du palais de justice de San Francisco, dans Lombard Street, le chasseur de primes Rick Deckard, mallette à la main, descendit au bureau de Harry Bryant.
« Vous avez fait sacrément vite !»
dit son supérieur en se laissant aller en arrière dans son fauteuil avant de prendre une pincée de tabac à priser numéro 1. « J'ai ce que vous m'avez demandé. » Rick s'assit face à lui et posa sa mallette par terre.
« Je suis épuisé. »
se rendit-il compte. Ça lui était tombé dessus depuis son retour. Il se demanda s'il parviendrait à récupérer suffisamment pour la tâche qui l'attendait.
« Comment va Dave ? Assez bien pour que j'aille lui parler. Ça me paraît judicieux avant de m'attaquer au premier endroit. Vous allez commencer par Polokov, celui qui a tiré sur Dave. Mieux vaut le mettre hors jeu immédiatement, vu qu'il se sait viser.
Avant de parler à Dave ? » Bryant tendit la main vers une feuille en papier carbone.
« Polokov s'est fait embaucher comme éboueur par la municipalité. »
Je croyais que c'était un travail réservé aux spéciaux.
Polokov se fait passer pour un spécial. Une tête de fourmi. Très atteint. Du moins, le prétend-il. C'est ce qui a embobiné Dave. Polokov joue tellement bien le jeu qu'il ne s'est pas assez méfié. Vous êtes sûr de l'efficacité du Voidkampf maintenant ? Absolument certain, après ce qui s'est passé à Seattle ?
Absolument. Se contenta de répondre Deckard.
« Je vous crois sur parole. Mais on ne peut pas se permettre la moindre bavure. »
Il n'y en a jamais eu une seule. Dans aucune chasse aux Andros. Ce cas n'est pas différent.
« Le Nexus 6 est différent. »«
J'en ai déjà trouvé un. » Firik. « Et Dave 2. » »« Trois si on compte Polokov. » »«
D'accord.
Je vais le retirer aujourd'hui. Ensuite, j'irai parler à Dave, ce soir ou peut-être demain. » Il tendit la main vers la fiche signalétique de l'androïde Polokov.
« Autre chose !»
fit Bryant.
« Un flic russe de l'OMP est en passe d'arriver ici. Il m'a appelé pendant que vous vous trouviez à Seattle. Il est à bord d'une fusée de l'aéroflotte qui va se poser sur le terrain d'atterrissage public dans environ une heure. Sandor Cadalier, c'est son nom.
Qu'est-ce qu'il veut ?» Que des flics de l'OMP se pointent à San Francisco n'arrivait pour ainsi dire jamais.
L'OMP s'intéresse suffisamment au nouveau Nexus 6 pour vouloir qu'un de leurs hommes vous accompagne, comme observateur et, le cas échéant, pour vous assister. C'est à vous de décider quand et s'il peut vous être utile. Mais je lui ai déjà donné l'autorisation de vous suivre.
Et la prime ? S'enquit Eric.
Vous n'aurez pas à la partager.
Fit Bryant avec un sourire grinçant. Ça ne me semblerait pas juste d'un point de vue financier. Il n'avait pas la moindre intention de partager ses gains avec une brute de l'OMP. Il examina la fiche de Polokov. Celle-ci donnait une description de l'homme, ou plutôt de l'andro, avec son adresse actuelle et son lieu de travail. La société d'ébouage de la baie, dont le siège se trouvait à Geary.
Vous voulez attendre l'arrivée du flic soviétique pour retirer Polokov ?
S'enquit Bryant. Rick se hérissa.
J'ai toujours travaillé seul.
Bien sûr, la décision vous appartient. Je m'y plierai, quelle qu'elle soit. Mais j'aimerais autant m'attaquer à Polokov tout de suite, sans attendre que Cadalier se soit posé.
Allez-y seul,
décida Bryant.
Pour le suivant, qui sera une certaine mademoiselle Luba Luft, vous avez aussi sa fiche ici. Vous pourrez emmener Cadalier.
Après avoir fourré les carbones dans sa mallette, Rick quitta le bureau de son supérieur et remonta sur le toit, où était garé son aéromobile.
« Et maintenant ?»
se dit-il tout en tapotant son laser.
« Allons rendre une petite visite à Monsieur Polokov. »
Pour sa première tentative, il s'arrêta au siège de la société d'ébouage de la baie.
« Je cherche un de vos employés. »
dit-il à la standardiste grisonnante d'allure sévère. Le bâtiment de la société était impressionnant, grand et moderne. Il accueillait un grand nombre d'employés de bureaux génétiquement parfaitement purs. Les tapis en laine épaisse, les coûteux bureaux en bois véritables, lui rappelèrent que le ramassage des ordures était devenue depuis la guerre l'une des activités les plus importantes sur Terre. La planète tout entière avait commencé à se transformer en dépotoir, et pour la maintenir habitable pour la population restante, il fallait de temps à autre faire disparaître toutes ces saloperies, sans quoi, comme se plaisait à le déclarer l'ami Buster, la Terre finirait non pas recouverte de retombées radioactives, mais de tropie. « Monsieur Akers, » l'informa la standardiste, « c'est notre chef du personnel. » Elle lui indiqua un impressionnant bureau imitation chêne, derrière lequel se tenait un minuscule binoclard efféminé qui se confondait avec sa pléthore de paperasses. Rick lui présenta sa carte d'identification.
« Où se trouve actuellement votre employé connu sous le nom de Polokov? Il est de service ou en repos ?»
Akers consulta de mauvaise grâce ses registres, puis
« Polokov doit être en train de travailler, à presser des épaves d'aéromobiles à notre usine de Daly City avant de les jeter dans la baie. Cependant… »
Il consulta un autre document, puis décrocha le vidéophone pour passer un appel intérieur.
« Donc, il n'y est pas, » conclut-il,
puis à l'adresse de Rick.
« Polokov ne s'est pas présenté à son travail aujourd'hui. Aucune explication. Qu'a-t-il fait, inspecteur ?»«
Si jamais il devait se montrer, »
fit Rick, « ne lui dites pas un mot de ma visite.
C'est bien compris ?»«
Oui, j'ai bien compris. »
marmonna Akers, comme si ses parfaites connaissances des pratiques policières venaient d'être tournées en ridicule. Rick reprit ensuite l'aéromobile du service pour voler jusqu'à l'immeuble de Polokov, situé dans le quartier rouge.
« On ne va jamais la voir. Bryant et Holden ont attendu trop longtemps. Au lieu de m'envoyer à Seattle, Bryant aurait mieux fait de me mettre sur Polokov, et pas plus tard qu'hier soir, quand Dave Holden s'est fait avoir. » Quel endroit sinistre,
observa-t-il alors qu'il arpentait le toit en direction de l'ascenseur. Des enclos à l'abandon recouverts de retombées, et dans une cage, un poulet artificiel depuis longtemps hors service. Prenant l'ascenseur pour rejoindre l'étage de Polokov, Rick se retrouva dans un couloir sans lumière. Il aurait pu s'agir d'une cave souterraine. Au moyen de sa torche de service étanche, il éclaira le couloir et en profita pour jeter un dernier coup d'œil à l'affiche de Polokov. On lui avait déjà administré le Voidkampf. Inutile de perdre du temps avec ça, Rick pouvait donc s'attaquer directement à l'élimination de l'androïde.
Mieux vaut que ça se passe ici,
décida-t-il. Après avoir posé sa trousse par terre, il farfouilla dedans à la recherche d'un transmetteur d'ondes non directionnel Penfield qu'il finit par dénicher. Il appuya sur la touche catalepsie. Lui-même était protégé de l'émanation d'humeur par l'émission d'une onde contraire que la coque métallique de l'émetteur envoyait directement sur lui.
« Tout le monde est immobilisé à présent, »
se dit-il en éteignant l'appareil.
« Tout ce qui vit dans les environs, Andros comme humain, je ne risque plus rien. Il ne me reste plus qu'à entrer et à le descendre, à condition bien sûr qu'il soit à l'intérieur, ce qui n'est guère probable. »
Se servant d'une clé universelle capable d'analyser et d'ouvrir tous les types de serrures connues, il pénétra dans l'appartement de Polokov, laser en main. Pas de Polokov. Juste des meubles délabrés, un lieu de tropie qui tombait en ruine. Aucun objet personnel. En guise d'accueil, ne restaient que des débris impersonnels dont Polokov avait hérité en prenant possession des lieux et qu'il avait laissé à son départ à son hypothétique successeur.
Évidemment. Eh bien.
Autant pour ma première prime de $1000. Il est sans doute parti se planquer quelque part en Antarctique, en dehors de ma juridiction. C'est un autre chasseur de primes d'un autre service de police qui va le retirer et toucher l'argent. Autant passer aux Andros qui ne sont pas prévenus. À l'Ubaluft. Une fois de retour à son aéromobile, il téléphona à Harry Bryant pour lui faire son rapport.
Pas de bol avec Polokov, il a probablement filé juste après avoir eu Dave.
Il consulta sa montre.
Vous voulez que j'aille récupérer Kadalyi au terrain d'atterrissage? On gagnerait du temps. J'ai hâte de passer à l'Ubaluft.
Il avait déjà sa fiche signalétique devant lui et commençait à l'étudier en détail.
Bonne idée,
fit Bryant,
sauf que Monsieur Kadalyi est déjà ici. Le vaisseau de l'aéroflotte est comme d'habitude d'après lui arrivé en avance. Un instant.
Conciliabule invisible. Puis Bryant réapparut à l'écran.
Il va vous rejoindre là où vous vous trouvez actuellement. Profitez-en pour potasser le dossier de Mademoiselle Luft.
Chanteuse d'opéra, soi-disant originaire d'Allemagne, actuellement attachée à la troupe de San Francisco. Il hocha la tête pensivement, l'esprit concentré sur l'affiche. Elle doit avoir une sacrée voix pour s'être intégrée aussi vite. D'accord, je vais attendre Cadalier ici. Il donna sa position à Bryant et raccrocha. Je vais me faire passer pour un amateur d'opéra. Fini par décider Rick au fil de sa lecture. Ça ne devrait pas me poser beaucoup de problèmes. J'ai des enregistrements des grandes chanteuses d'autrefois dans ma collection personnelle. Elisabeth Schwarzkopf, Lotte Lehmann, Lisa Della Casa. Ça nous fera un sujet de conversation pendant que j'installerai l'appareillage du Voigtkampf. J'aimerais beaucoup l'entendre chanter Donna Anna dans Don Juan. Le vidéophone se mit à vrombir, il décrocha.
Monsieur Descartes,
fit la standardiste de la police. « Vous avez un appel de Seattle. Monsieur Bryant m'a dit de vous le passer. C'est la Fondation Rosen. »«
D'accord. »
Il patienta en se demandant ce qu'il voulait. Pour autant qu'il ait pu en juger, il fallait toujours s'attendre au pire avec les Rosen, et ça n'avait aucune raison de changer, quelles que soient leurs intentions. Le visage de Rachel Rosen apparut sur le minuscule écran.
« Bonjour, inspecteur Descartes. »
Sa voix avait quelque chose d'apaisant, ce qui retint son attention.
« Je peux vous parler ? Vous n'êtes pas trop occupé ?
Allez-y. »
À la Fondation, nous avons discuté de votre situation par rapport au Nexus 6 en fuite. Et les connaissant comme nous les connaissons, nous estimons que vous auriez plus de chances de réussir si l'un d'entre nous travaillait en relation avec vous.
En faisant quoi ?
Eh bien, en vous envoyant quelqu'un vous assister dans vos recherches.
Pourquoi ?
Qu'est-ce que ça m'apporterait ? Les Nexus 6 risquent de se rebiffer à l'approche d'un humain, mais si c'est un autre Nexus 6 qui établit le contact,
vous-même, vous voulez dire ?
Oui.
Elle hocha la tête, le visage grave.
Je ne sais déjà pas quoi faire de toute l'aide que j'ai reçue.
Je persiste à penser que vous avez besoin de moi, j'en doute.
J'y réfléchis et je vous rappelle. Dans un avenir lointain, indéterminé, et plus probablement jamais. Comme si j'avais besoin de ça. Rachel Rosen qui surgit derrière chaque nuage de retombée que je vais devoir traverser.
Vous ne comptez pas vraiment le faire, fit Rachel. Me rappeler. Vous n'imaginez pas à quel point un Nexus 6 en cavale peut se montrer agile. C'est mission impossible. Nous estimons vous devoir ceci après ce que... Vous savez ce que nous avons fait.
Je vais y réfléchir.
Il s'apprêta à raccrocher. Sans moi, vous n'avez aucune chance.
Au revoir.
Et il raccrocha.
Dans quel genre de monde un androïde téléphone-t-il à un chasseur de primes pour lui offrir son aide ?
Il rappela le standard de la police.
Ne me passez plus le moindre appel en provenance de Seattle.
Entendu, monsieur Descartes. Monsieur Cadalier vous a-t-il déjà rejoint ?
Je l'attends toujours. Et il ferait bien de se dépêcher, je ne vais pas rester ici longtemps.
Et de raccrocher. Alors qu'il reprenait sa lecture de la fiche signalétique de Lubaluft, un aérotaxi entreprit une manœuvre d'atterrissage sur le toit à quelques mètres de lui. En sortit un quinquagénaire angélique à la mine rougeaude, vêtu d'un épais manteau de style russe d'une taille impressionnante. Sourire aux lèvres, main tendue, il s'approcha de la voiture de Rick.
« Monsieur Descartes, »
dit-il avec un accent slave,
« le chasseur de primes du département de police de San Francisco. »
Le taxi décolla sous le regard absent du Russe.
« Je suis Sandor Cadalier. »
Et d'ouvrir la portière de la voiture pour venir se caser aux côtés de Rick. Tandis qu'il serrait la main de Cadalier, Rick remarqua que le représentant de l'OMP portait un laser d'un type inhabituel, qu'il n'avait jamais vu auparavant.
« Oh, ça !» fit Cadalier. « Intéressant, n'est-ce pas ?»
Il le tira de son étui.
« Je l'ai eu sur Mars. »
Je pensais connaître le moindre modèle de pistolet,
dit Rick,
même ceux originaires des colonies.
« Nous les fabriquons nous-mêmes. »
Kadali rayonnait comme un Père Noël slave, son visage rougeau bouffi d'orgueil.
« Il vous plaît. Ce qui distingue son fonctionnement des autres, c'est... Tenez, prenez-le. »
Il passa l'arme à Rick, qu'il examina d'un œil formé par des années d'expérience.
« En quoi fonctionne-t-il différemment ?»
Rick n'aurait su le dire.
« Appuyez sur la détente. »
Visant en l'air par la fenêtre de la voiture, Rick pressa la gâchette de l'arme. Rien ne se produisit, aucun rayon n'en jaillit. Perplexe, il se tourna vers Kadali.
« Le circuit de la détente, » dit gaiement celui-ci, « n'est pas incorporé. Il reste avec moi, vous voyez ?»
Il ouvrit la main, révélant un dispositif minuscule, « et je peux aussi le diriger dans certaines limites, où qu'il soit braqué. »
« Vous n'êtes pas Polokov, » fit Rick. « Vous êtes Kadali.
Ne serait-ce pas plutôt l'inverse? Vous n'êtes pas très clair.
Je veux dire que vous êtes Polokov, l'androïde. Vous n'appartenez pas à la police soviétique. »
Du bout du pied, Rick appuya sur le bouton d'urgence situé au plancher.
« Pourquoi mon laser ne fonctionne-t-il pas ?»
Kadali Polokov s'acharnait sur le dispositif de visée et de détente miniaturisé qu'il tenait au creux de sa main.
« Une onde sinusoïdale, » expliqua Rick. « Elle déphase les émanations laser et propage le rayon en lumière ordinaire. »«
Je vais donc devoir vous briser le cou. »
L'androïde laissa tomber l'appareil et, dans un grognement, saisit Rick des deux mains à la gorge. Alors que les mains de l'androïde s'enfonçaient dans sa gorge, Rick fit feu à travers son holster. La balle du 38 Magnum, son vieux pistolet réglementaire, toucha l'androïde à la tête et fit éclater sa boîte crânienne. L'unité Nexus 6 dont il était équipé vola en 1000 morceaux, produisant un souffle déchaîné qui se déversa partout dans le véhicule. Des débris tourbillonnaient autour de Rick, tels des retombées radioactives. Les restes de l'androïde retiré basculèrent en arrière, rebondirent sur la portière et s'écroulèrent lourdement sur lui. Il se retrouva à lutter pour repousser le cadavre encore agité de mouvements convulsifs. D'une main tremblante, il parvint finalement à atteindre le vidéophone de bord pour appeler le palais de justice.
« Au rapport. Dites à Harry Bryant que j'ai eu Polokov. »«
Vous avez eu Polokov. Il comprendra, n'est-ce pas ?»«
Oui. »
fit Rick avant de raccrocher.
« Nom de Dieu. C'était moins une. Je n'aurais pas dû prendre l'avertissement de Rachel Rosen à la légère. Je l'ai délibérément ignoré, et ça a bien failli me coûter la vie. » Mais j'ai quand même eu Polokov.
Sa surrénale cessa progressivement d'injecter ses multiples sécrétions dans son système sanguin. Les battements de son cœur revinrent à la normale, sa respiration se fit moins frénétique, mais il tremblait encore.
En tout cas, je viens de me faire $1000. Ça valait donc le coup.
J'ai manifestement de meilleurs réflexes que Dave Holden. Même si sa mésaventure m'a forcément été utile, il faut bien l'admettre. Lui n'a pas bénéficié d'une telle mise en garde. Il reprit le combiné pour passer un coup de fil à Iran. Le temps de composer le numéro, il parvint à allumer une cigarette. Les tremblements s'apaisaient. Le visage de sa femme, abruti par les 6 heures de dépression auto-accusatrice qu'elle avait prophétisée, apparut sur l'écran.
« Oh !»«
Salut, Eric. Qu'est-il arrivé au 594 que je t'avais programmé avant de partir ?» Reconnaissance satisfaite. Je l'ai reprogrammé dès que tu es parti. Qu'est-ce que tu veux ? Sa voix se résumait désormais à un lugubre et misérable bourdonnement. Je suis tellement fatigué. Il n'y a plus rien qui me donne de l'espoir. Notre mariage, toi qui risques de te faire tuer par un de ces andros, c'est pour ça que tu m'appelles, Rick ? Parce qu'un andro vient de t'avoir ? Le tintamarre de l'ami Buster à l'arrière-plan couvrit alors ses paroles. Descartes voyait sa bouche bouger mais n'entendait que la télé.
« Écoute, » l'interrompit-il, « est-ce que tu m'entends ? Je suis sur un coup, un nouveau type d'androïde dont personne à part moi ne peut apparemment se charger. J'en ai déjà retiré un, ce qui va déjà me valoir $1000. Tu sais ce qu'on va pouvoir bientôt acheter. »
Iran le fixait sans le voir. « Oh !» fit-elle avec un hochement de tête.
Je n'ai encore rien dit.
Il s'en rendait compte à présent. La dépression de son épouse avait atteint un point qui l'empêchait même de l'entendre. À tout le moins, il parlait dans le vide. « Je te verrai ce soir », conclut-il amèrement pour aussitôt raccrocher. « Et merde. À quoi ça sert que je risque ma vie ? Peu lui importe qu'on possède ou non une autruche, plus rien ne la touche. Si seulement je m'étais débarrassé d'elle il y a 2 ans, quand on a envisagé de divorcer. Mais ce n'était peut-être que partie remise. » De méchante humeur, il se pencha pour ramasser les papiers froissés éparpillés sur le plancher de la voiture, y compris l'affiche de Loubalouft. Aucun soutien. Se dit-il, la plupart des androïdes que j'ai connus avaient plus de vitalité et de désir de vivre que ma femme. Elle n'a rien à me donner. Ce qui le conduisit à penser à Rachel Rosen. Sa mise en garde concernant les Nexus 6 était fondée. Pour peu qu'elle ne me demande pas une partie de la prime, je pourrais peut-être l'utiliser. Sa rencontre avec Kadali Polokov lui avait radicalement fait changer de point de vue. Un coup d'accélérateur le fit bondir dans le ciel en direction du vieil opéra du mémorial de guerre où, d'après les notes de Dave Holden, il pourrait trouver Loubalouft à 7 heures de la journée. Et de s'interroger sur elle à présent. Certaines androïdes trouvaient grâce à ses yeux. Il s'était surpris à ressentir de l'attirance physique pour plusieurs d'entre elles, ce qui ne laissait pas de l'étonner, sachant qu'il s'agissait de machines, mais capables d'éprouver des émotions. Rachel Rosen, par exemple. Non, décida-t-il. Elle est trop mince. Pas assez développée, surtout la poitrine. Une silhouette de gamine, plate, insipide. Il pouvait trouver mieux. Quel âge la fiche de Loubalouft lui donnait-elle ? Tout en conduisant, il récupéra ses notes froissées pour y trouver son âge, 28 ans. À en juger par son apparence, ce qui pour les andros était le seul critère pertinent. C'est une bonne chose que j'ai quelques connaissances en matière d'opéra. Un autre de mes avantages sur Dave, je m'intéresse davantage à la culture. J'en essaie encore un avant de demander de l'aide à Rachel. Si Mademoiselle Luft se révèle particulièrement coriace... Mais son intuition lui soufflait qu'il n'en serait rien. Il avait fait le plus dur avec Polokov. Inconscient d'être activement pourchassé, les autres se laisseraient abattre l'un après l'autre, comme une file de canards dans une fête foraine. Tandis qu'il entamait sa descente vers le toit richement ornementé de l'opéra, il se mit à chanter d'une voix forte un pot-pourri d'aria dans un italien de son cru. Même sans l'orgue d'humeur Penfield sous la main, il se sentait dans les meilleures dispositions du monde, prêt à accueillir l'avenir avec une jubilation avide.